Chapitre 14. L'ennemi intime. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. Joseph O'Connor. Madeleine gara sa voiture banalisée devant le Black Swan, le pub irlandais appartenant à la famille Doyle depuis plusieurs générations. Cheetham Bridge était une petite enclave de moins de 10 000 habitants à 3 km au nord-est du centre de Manchester. Autrefois à majorité irlandaise, l'ancien quartier industriel avait vécu les migrations successives d'Indiens, d'Antillais, de Pakistanais, d'Africains et plus récemment d'Européens de l'Est. Cette mixité ethnique générait un étonnant brassage des cultures, mais était aussi à la base d'une guerre des gangs meurtrières et sans répit. L'action de la police y était difficile et le niveau de criminalité affolant. À peine entrée dans le pub, Madeleine fut interpellée par une voix ironique.
« Salut, Maddy. Tu sais que tu es toujours le plus beau petit cul de toute la police de Manchester ?»
Elle se retourna pour apercevoir, au fond de l'établissement, Danny Doyle, accoudé au bar devant une pinte de bière brune qu'il leva dans sa direction. Il était entouré de ses gardes du corps qui riaient grassement à sa blague.
« Bonjour, Daniel, » dit-elle en s'avançant. « Ça faisait longtemps. »
Danny Dub Doyle était le chef d'un des clans les plus puissants de la pègre de Manchester. Le parrain d'une dynastie familiale criminelle qui régnait depuis 50 ans sur le royaume pourri de Cheetham Bridge. À 37 ans, il avait fait plusieurs séjours en prison et son casier judiciaire était long comme le bras. Torture, trafic de drogue, braquage, blanchiment d'argent, proxénétisme, agression de policiers. Danny était surtout un homme violent, capable de crucifier sur une table de billard le chef d'un gang rival. Avec son frère et sa bande, Dub avait descendu une vingtaine de personnes, le plus souvent au cours de séances de torture d'une cruauté extrême.
« Je t'offre une bière ?» proposa-t-il.
« Je préfère un verre de Bordeaux, » répondit Madeleine.
« Ta Guinness dégueulasse me fait gerber. »
Un murmure de surprise parcourut la garde rapprochée de Doyle. Personne ne se permettait de lui parler sur ce ton, et encore moins une femme.
Madeleine toisa avec mépris l'aéropage de Caïd. C'était un mélange de gorille et de petit mec qui avait trop regardé Scarface et le parrain. Il cherchait à en singer les poses et les répliques, mais avec leur dégaine de beauf et leur accent à couper au couteau, il n'aurait jamais la moitié de la classe des Corleone.
Sans élever la voix, Danny Doyle demanda au barman s'il y avait du Bordeaux dans la cave.
« Du Bordeaux ? Non, à moins que... peut-être dans les cartons que Layam a piqué chez le Russe ?»«
Va vérifier, » ordonna Doyle.
Madeleine le regarda dans les yeux.
« Il fait sombre ici. Sortons sur la terrasse pour une fois qu'il fait beau. »«
Je te suis. »
Doyle était un être complexe et torturé. Il partageait le leadership de son clan avec son frère jumeau, Johnny, sorti du ventre de leur mère 5 minutes après lui, mais qui n'avait jamais accepté son statut de cadet. Sujet à des crises de violence imprévisibles, Johnny souffrait de schizophrénie paranoïde et avait été brièvement interné à plusieurs reprises, son cas relevant davantage de l'asile psychiatrique que de la prison. Des deux, c'était Johnny, la brute sanguinaire, et Madeleine avait toujours pensé que c'était en partie pour maintenir sa domination sur son frère que Danny s'était laissé entraîner dans cette spirale de violence. Alors qu'ils arrivaient dans le patio, un rouquin s'avança avec l'intention de fouiller la jeune fille, mais Madeleine l'en dissuada.
« Toi, tu me touches et je te découpe en deux !»
Danny eut un léger sourire et leva la main pour calmer ses troupes et les congédier. Il demanda lui-même à Madeleine de lui remettre son arme et s'assura qu'elle n'en planquait pas une autre dans son dos ou le long de sa cheville.
« N'en profite pas pour me ploter.
J'assure mes arrières. Tout le monde sait bien que si les flics décident de me descendre un jour... « C'est à toi qu'ils demanderont de faire le sale boulot. »
Sous une tonnelle de lierre au charme bucolique, ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table en fer émaillé.
« On se croirait en Provence ou en Italie !»
lança Doyle pour désamorcer l'incongruité de la situation. Madeleine frissonna. Pas facile d'être assise face au diable. Sauf qu'avant d'être le diable, Danny Doyle avait été son camarade d'école primaire et, plus tard au lycée, le premier garçon qu'elle avait laissé l'embrasser.
Je t'écoute, fit Danny en croisant les mains.
De taille moyenne, les cheveux bruns, le visage lisse et carré, Doyle s'employait à ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Madeline savait qu'il admirait le côté caméléon du personnage joué par Kevin Spacey dans Usual Suspect. Entièrement vêtu de noir, il portait sans ostentation un costard Hermenegildo Zegna qui devait coûter plus de 1000 livres. À la différence de ses sbires, Doyle échappait à la caricature. Il avait même le charme des hommes qui ont renoncé à séduire.
« Je viens te voir à propos d'Alice Dixon, Daniel. »
« La gamine qui a disparu ?»«
Oui, c'est moi qui mène l'enquête depuis 3 mois. Tu aurais des infos ?»
Doyle secoua la tête.
« Non, pourquoi ?»«
Tu me jures que ce n'est pas toi qui es derrière tout ça.
Pour quelle raison aurais-je enlevé cette fille ?»«
Pour la faire travailler ? Pour l'exploiter ?»«
Elle a 14 ans !»
Madeline sortit de son portefeuille la photo d'Alice.
« Elle en fait au moins 16. Et puis, elle est mignonne, non ? »
dit-elle en lui mettant le cliché sous le nez.
« Ne me dis pas que tu ne te la taperais pas !»
Doyle ne supporta pas cette provocation. D'un geste rapide, il saisit Madeline par les cheveux, approcha son visage à quelques centimètres du sien et la regarda droit dans les yeux.
« À quoi tu joues, Maddy ? J'ai tous les défauts de la terre, j'ai du sang plein les mains et ma place est déjà réservée en enfer. Mais je n'ai jamais touché à une enfant. « Alors aide-moi » cria-t-elle en se dégageant de son emprise.
Doyle laissa retomber la tension avant de demander avec agacement
« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Tu connais tout le monde dans le quartier et la moitié des gens te doivent quelque chose. Tu règles les problèmes de voisinage, tu protèges les commerçants, tu organises même des distributions de cadeaux de Noël aux familles les plus misérables. »
« C'est mon côté Robin des Bois !» ironisa Doyle.
« Tu cherches surtout à ce qu'une foule de gens te soient redevables. »
« C'est la base du business. »«
Eh bien, je veux que tu utilises ton réseau pour me trouver des informations sur l'enlèvement d'Alice. »«
Quelles informations ?»«
Des témoignages que les gens n'auraient pas voulu fournir à la police. »
Doyle soupira et réfléchit quelques secondes.
« Maddy, ça fait plus de 3 mois que cette gosse a disparu. Tu as bien conscience qu'on ne la retrouvera jamais. Je ne suis pas venu pour entendre ces conneries !»
l'arrêta-t-elle avant de poursuivre sa requête.
Tu comptes parmi tes relations certains politicards et plusieurs hommes d'affaires. Des types qui, eux aussi, te sont redevables de ne pas avoir envoyé à leurs femmes ou à la presse des photos compromettantes sur lesquelles on les voit partouzer avec des call girls. Enfin, tu connais mieux les détails que moi puisque ces filles, c'est toi qui les payais.
Un rictus nerveux crispa les lèvres de Doyle.
Comment es-tu au courant ?
Je suis flic, Daniel. Tu sais très bien que ton téléphone est sur écoute depuis des mois.
Des téléphones, j'en ai une dizaine. Se défendit-il en haussant les épaules.
« Peu importe, je veux que tu te serves de ces cols blancs pour remobiliser l'opinion publique. »
Le barman leur apporta la bouteille de Bordeaux qu'il avait fini par dégoter.
« Est-ce que ça convient à mademoiselle ?» demanda-t-il.
« Un Aubryon 1989 » dit-elle en regardant l'étiquette.
« On ne va pas ouvrir ça, c'est un cru classé. »
D'un signe de tête, Doyle ordonna au contraire au barman de leur en servir 2 verres.
Il appartenait à un fils de pute de Ruskov qui repose maintenant 6 pieds sous terre. Alors ça me fait foutrement plaisir de le boire à sa santé.
Pour ne pas le contrarier, Madeline trempa ses lèvres dans le nectar tout en guettant la réponse de Doyle.
Si je t'aide à retrouver cette fille, je gagne quoi en échange?
Une satisfaction personnelle, l'indulgence de Dieu pour certains de tes actes, une sorte de rachat.
Il rigola doucement.
Et plus sérieusement?
Pour se donner du courage, Madeline prit une longue gorgée de vin. Elle s'était préparée à ce marchandage. Doyle ne donnait rien pour rien. Et c'était pour ça qu'elle n'était venue le voir qu'en dernier recours.
« À la GMP, un indique nous rend garde sur tes projets depuis plusieurs semaines. »
commença-t-elle. Doyle secoua la tête.
« Tu prétends qu'il y a une taupe dans mon équipe ?
Tu bluffes. »
Il nous a prévenu pour le braquage du fourgon de la Butterfly Bank que tu as mis sur pied celui de vendredi prochain.
Doyle resta impassible.
Si je t'aide, tu me refiles son nom ?
Madeline se renfonça dans son siège.
Pas question. Je t'en ai déjà trop dit. Démerde-toi pour débusquer ta balance par tes propres moyens.
Tu veux bien compromettre ta réputation en venant me demander de l'aide, mais tu n'es pas prête à te salir les mains jusqu'au bout, c'est ça ?
« Daniel, s'il te plaît, si je te donne le nom de ce mec, il sera mort avant ce soir. »
Ça ne fait aucun doute,
répondit-il en la regardant avec une affection matinée de reproches. Ils étaient unis par un lien étrange. À part elle, personne ne l'avait jamais appelée Daniel, et il était à peu près certain qu'elle n'autorisait pas grand monde à l'appeler Maddy.
Sur ce coup-là, il n'y a pas de demi-mesure, Maddy. Soit tu plonges pour aider ta gamine, soit tu refuses de te mouiller. À toi de voir.
Tu ne me laisses pas le choix.
On a toujours le choix. On est même la somme de ces choix.
C'est dans quel livre, déjà ?
Un des romans que tu m'avais envoyé lors de mon premier séjour en prison.
Devant ces hommes, Daniel jouait l'inculte, mais c'était loin d'être le cas. Contrairement à son frère, il s'intéressait à l'art, et avant d'être incarcéré, il avait commencé des études d'économie et de gestion, d'abord à Londres, puis à l'université de Californie. Madeline tira un papier plié en quatre de la poche de son jean et le tendit à Doyle.
« Ok, voilà le nom de notre indique, » dit-elle.
Elle se leva pour quitter le pub.
« Reste encore 5 minutes, » demanda-t-il en la retenant par la main.
Mais elle se libéra de son emprise. Alors, pour la garder encore quelques instants, il sortit un briquet de sa poche et enflamma le papier sans avoir lu le contenu.
« C'est bon, tu as gagné. »
Elle accepta de se rasseoir et il lui resservit un verre de vin.
« Pourquoi n'as-tu jamais quitté ce fucking Manchester ?» demanda-t-il en allumant une cigarette. « Tu disais tout le temps que tu voulais vivre à Paris.
Et toi ? Pourquoi tu ne t'installes pas aux États-Unis ? Ces agences immobilières et ces restaurants que tu achètes à Los Angeles, ils te servent à quoi ? À blanchir de l'argent ?»
Il éluda la question en se souvenant.
« Tu voulais ouvrir une boutique de fleurs.
Et toi, tu disais que tu voulais écrire des pièces de théâtre. »
Doyle sourit à ce rappel. Le club de théâtre du collège, en 1988. Il avait 14 ans.
Moi, le livre de ma vie était déjà écrit avant ma naissance. Quand tu es né à Chitam Bridge et que tu t'appelles Danny Doyle, tu ne peux pas échapper à ton destin.
Je croyais que l'on avait toujours le choix,
répondit-elle malicieusement. Une lumière s'éclaira dans le regard de Doyle, suivi d'un sourire franc qui transforma instantanément son visage, lui donnant une expression très attachante. Il était difficile d'imaginer que c'était le même homme qui, un mois plus tôt, avait tranché à la machette les deux pieds et les deux mains d'un Ukrainien qui avait cherché à le doubler. Elle savait que le bien et le mal coexistaient en chaque individu, que certains, par choix ou par contrainte, exploraient ce qu'il y avait de pire en eux. À cet instant, elle se demanda quel genre d'homme serait devenu Daniel s'il avait parié sur la face lumineuse de sa personnalité au lieu d'emprunter le chemin tortueux d'une fuite en avant à l'issue forcément funeste. Il y eut donc ces 2 ou 3 secondes pendant lesquelles le temps se figea. Ces 2 ou 3 secondes de grâce où ils avaient tous les deux 15 ans, où ils se souriaient, où Daniel n'avait jamais tué personne, où elle n'était pas flic, où Alice n'avait pas disparu. Ces 2 ou 3 secondes où la vie était encore pleine de promesses. 2 ou 3 secondes. Puis un des gars débarqua sur la terrasse et le charme malsain se rompit.
« Il faut qu'on y aille, patron, sinon on va louper le Jamaïcain. »«
Je te rejoins dans la voiture. »
Daniel termina son verre de vin et se leva.
« Tu peux compter sur moi pour t'aider, m'a dit, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit.
« Pourquoi ?»«
Parce que je vais mourir dans pas longtemps. »
Elle haussa les épaules.
« Tu dis ça depuis des années. »
Doyle se frotta les paupières avec lassitude.
« Cette fois, tout le monde veut ma peau. Les Russes, les Albanais, les flics, le département du Trésor américain, la nouvelle génération montante du quartier qui ne respecte plus rien.
Tu as toujours su que ça finirait comme ça, non ?»«
Tôt ou tard, » dit-il en lui rendant son arme. Puis il la regarda une dernière fois et des paroles qu'il n'avait pas préparées sortirent toutes seules de sa bouche.
« Notre baiser, j'y repense souvent. »
Elle baissa les yeux. « C'était il y a plus de 20 ans, Daniel. »
« C'est vrai, mais je voulais que tu saches que ce souvenir m'accompagne toujours et que je ne le regrette pas. »
À son tour, elle le regarda. C'était dur à entendre. C'était dur à admettre. Ça avait quelque chose de flippant aussi, mais le monde n'était pas blanc ou noir,
et l'honnêteté la poussa à reconnaître. Moi non plus, Daniel. Je ne le regrette pas.